L'histoire justifie-t-elle la violence? L'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Alors, comme dans le premier exposé sur le négationnisme, le but, ça va être ici de voir les effets potentiellement violents des discours tenus sur l'histoire et le fait que l'histoire peut peut-être être elle-même violente. Là, je parle de l'histoire des historiens. Et l'exemple qui est pris, c'est celui de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire à travers le texte qui est un verbatim d'une conférence tenue très récemment par l'une des plus grandes spécialistes de l'histoire des femmes en France, qui s'appelle Michel Perrault et qui a notamment co-diriger en fait une collection en plusieurs volumes sur l'histoire des femmes en Occident. Donc c'est en 5 volumes et donc elle a co-dirigé ça, ça en fait donc une véritable spécialiste de l'histoire des femmes en France. Je vais procéder à une explication rapide du texte en m'appuyant sur les éléments qui sont en gras et en faisant le lien avec les exemples que vos camarades vous ont développés dans leur exposé. Pour commencer, on va faire un petit travail de définition. Ici, Michel Perrault parle de l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. C'est le titre donc de l'exposé. Invisibilisation, ça n'est pas la même chose qu'invisibilité. Donc, je voudrais faire une distinction entre les deux. L'invisibilité, qu'est-ce que c'est ? L'invisibilité, c'est un état, c'est l'état de ce qui ne peut pas être vu ou de ce qui n'est pas vu. Pourquoi est-ce que ici on emploie le terme invisibilisation et pas invisibilité ? Le suffixe ation, ça renvoie toujours à une action, ça renvoie toujours à un processus, alors que le T à la fin de invisibilité, ça renvoie à un état, ça renvoie à une qualité. Donc invisibilisation, c'est une action de rendre invisible. Ce que reproche Michel Perrault, qui elle-même est historienne, hein, ce qu'elle reproche à l'histoire classique, traditionnelle, qu'elle a apprise elle-même à l'école, c'est que cette histoire rend invisibles les femmes. Là, en l'occurrence, dans le verbatim, elle parle des femmes pauvres plus spécifiquement, des femmes et des pauvres. Donc, c'est ces femmes et ces pauvres qui existent et qui sont visibles, ils deviennent invisibles dans le discours historique. Pourquoi ? Parce que ce discours historique traditionnel choisit de mettre en lumière les événements qui sont des événements qui correspondent aux actions des hommes et aux situations qui mettent plus en jeu les hommes que les femmes. Donc, regardons le texte. Il commence par cette mise en évidence de l'invisibilisation des femmes et des pauvres dans l'histoire. Donc, je lis les passages qui sont en gras. Ces femmes sont habituellement dans l'ombre. On ne les voit pas. Elles parlent, mais on ne les entend pas. Elles sont invisibles dans le présent, comme elles l'ont été dans l'histoire. Et ensuite, l'invisibilité des pauvres et des femmes est un fait général et très ancien de l'histoire. Donc ici, Michel Perrault dénonce en quelque sorte une erreur, une tendance générale des études historiques à rendre invisibles certaines parties de la population. C'est là qu'on peut faire intervenir le premier exemple sur lequel ont travaillé vos camarades et qu'ils vous ont présenté, l'exemple de l'action fondatrice du mouvement de libération des femmes. Donc le mouvement de libération des femmes, c'est un mouvement féministe créé dans les années, fin des années 60, début des années 70, notamment par une grande figure du féminisme français qui s'appelle Christine Delphi. Christine Delphi qui, avec 8 autres, ou je crois qu'elles étaient 9, hein, 8 autres de ses camarades féministes décident de mener une action sur la tombe du soldat inconnu. Alors, vous savez, la tombe du soldat inconnu, c'est à Paris, un monument en mémoire des soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale, 14-18. Et donc, tous les 11 novembre, il y a une cérémonie sur la tombe du soldat inconnu. D'où cette action de ces féministes consistant à aller célébrer non pas le soldat inconnu, mais la femme du soldat inconnu, avec cette banderole qui, du coup, devient une citation célèbre. Il y a plus inconnu que le soldat, c'est sa femme. Que dénonçaient ces premières féministes françaises? Eh bien, c'était justement l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Quand on parle des guerres, en général, on parle des batailles, on parle des morts au combat, on parle des blessés, bref, on parle des hommes. Alors que les guerres, elles sont aussi vécues par les femmes, par les enfants, par ce qu'on appelle les civils, ou les hommes qui ne sont pas à la guerre aussi. Donc, ce que veut mettre en évidence là Christine Delphi, c'est que, il y a finalement tout un pan de l'histoire de la société qui est caché, qui est dans l'ombre, parce que on ne met en lumière que les actes qui sont les actes des hommes soldats. Et certes, ces hommes soldats, ils vivent des violences et ils vivent des vrais traumatismes, notamment la Première Guerre mondiale a été, par la guerre de tranchées, le nombre de morts au combat absolument énorme, et a été extrêmement traumatisant pour les hommes qui ont fait cette guerre. Généralement, les guerres sont traumatisantes pour les soldats, les vétérans qui en reviennent. Donc, il ne s'agit pas de nier cette violence qui est faite aux hommes pendant les guerres, mais ce qui est dénoncé, c'est le fait que, en ne mettant en lumière que cette violence et cette souffrance des hommes, on oublie et on laisse dans l'ombre les violences qui sont, et les souffrances qui sont celles des femmes. Ce qui va devenir éventuellement, comme on l'avait vu en fait dans le cas du négationnisme, ce qui devient une nouvelle violence, un redoublement de la violence. Non seulement vous vivez des violences, mais en plus elles ne sont pas reconnues dans les discours, qui sont les discours historiques, et on sait que cette reconnaissance, elle est souvent nécessaire pour justement dépasser les traumatismes. Donc c'est pour ça que j'avais demandé à vos camarades de faire une partie de leur exposé sur les violences faites aux femmes comme éléments de stratégie militaire. Je ne vais pas revenir dessus, mais on s'aperçoit de quoi quand on essaye d'étudier plus précisément ces violences faites aux femmes. Eh bien, non seulement elles sont massives, souvent dans les guerres, et en plus, elles sont taboues. Ce qui est tabou, c'est ce dont on ne peut pas parler, ce dont on ne parle pas. Donc, typiquement, les violences sexuelles commises comme stratégie de guerre, elles ont pour but quoi? Elles ont pour but de terroriser la population, mais elles ont aussi pour but d'humilier la société, société qui va être beaucoup plus durablement marquée par exemple, par le fait que les viols collectifs massifs vont produire ce qui va être considéré comme des enfants bâtards et qui seront une forme d'empreinte en fait de l'armée adverse sur la société qui subit ces traumatismes. Encore aujourd'hui, par exemple, il y a un très grand froid diplomatique entre la Corée du Sud et le Japon au sujet de l'esclavage sexuel que l'armée japonaise avait imposé à la Corée du Sud pendant les guerres qu'elle menait dans les années 30, dans les années 30-40. Donc ces violences, quand elles sont commises, premièrement, on n'en parle pas parce que ce sont des violences entre guillemets honteuses, et plus tard, l'histoire n'en parle pas beaucoup. Alors, on parle beaucoup plus aujourd'hui, justement, grâce au travail d'historiens et d'historiennes comme Michel Perrault, mais ça reste quand même très, très tabou dans le discours historique également. Donc, je reviens au texte de Michel Perrault, le troisième passage en gras. On parle davantage en histoire des hommes que des femmes. L'histoire a d'abord été une histoire publique où l'on parlait des hommes d'État, des guerriers, des généraux, etc., etc. Et la vie privée, la vie quotidienne, la vie des gens est une chose qui pendant longtemps n'a pas intéressé, si bien que les femmes pauvres se trouvent au confluent de deux invisibilités, l'invisibilité des pauvres et l'invisibilité des femmes. Voilà donc sur cette première partie qu'on pourrait dire être une partie de constat de ce processus d'invisibilisation qui cache donc une partie de l'histoire qui est celle des femmes. Et dans la deuxième partie du texte, enfin la suite du texte et même on peut dire la fin du texte, donc après ce constat de l'invisibilisation des femmes, il va s'agir pour Michel Perrault de montrer comment est-ce qu'on peut faire de l'histoire, de faire une histoire qui justement n'invisibilise plus, mais met en lumière les femmes. Donc, elle va commencer, Michel Perrault, en premier argument, par faire l'histoire des femmes et montrer comment a pu émerger ce nouvel objet de recherche qui porte sur les femmes et qui porte de manière plus générale sur la vie privée, l'histoire de la vie privée. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ce champ de recherche historique aujourd'hui. Et en faisant cette histoire de l'histoire des femmes, elle va mettre en évidence un élément qui est un élément important. C'est une problématique classique sur la question de l'histoire, le problème de la subjectivité de l'historien. Celui qui fait de l'histoire, qui fait de la recherche historique, ce n'est pas un être complètement neutre, c'est un homme ou une femme, il vient de telle ou telle société, donc il n'est pas, même si il a pour objectif la recherche de la vérité, etc., il n'est pas complètement neutre et son approche peut être biaisée ou peut être guidée par ce qu'il est par son identité personnelle. On peut donc se demander quelle est la part de subjectivité, le rôle de la subjectivité dans la recherche historique et donc c'est là que va intervenir l'exemple que prend Michel Perrault, l'exemple de Julie Daubier. Je vais lire le passage en gras qui concerne cet exemple. Il est intéressant de voir qu'une des premières enquêtes qui ont été faites sur les femmes pauvres est l'œuvre d'une femme, Julie Daubier. Julie Daubier est une femme tout à fait remarquable, tout simplement parce qu'elle a été la première femme bachelière de France. Donc, que fait Michel Perrault ici? Elle fait remonter la première enquête, l'une des premières enquêtes sur les femmes, premières enquêtes historiques, donc sur les femmes, à cette époque de Julie Daubier, première femme bachelière. Donc, pourquoi c'est intéressant? Ça montre que tant que les femmes n'ont pas accès aux études supérieures, parce que avoir le bac, ça a toujours été normalement le sésame pour faire des études supérieures, et donc pour pouvoir devenir historien, et pour pouvoir faire ce genre d'enquête. Donc, tant que les femmes n'avaient pas accès aux études supérieures, elles ne pouvaient pas faire de science, elles ne pouvaient pas faire de recherche, il n'était pas vraiment possible que les femmes soient un sujet d'attention pour l'histoire, pour les historiens. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce n'était pas le cas. Il a fallu attendre que les femmes accèdent à ces études supérieures pour que on puisse avoir des premières enquêtes qui éclairent le rôle des femmes dans l'histoire ou qui s'y intéressent. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que l'identité du chercheur est importante, a un rôle sur la recherche elle-même. Je vais plus facilement m'intéresser ou rechercher ou faire des recherches sur ce à quoi je m'identifie. Et si je suis une femme, je vais être peut-être plus facilement poussée à m'intéresser à l'histoire des femmes. Si je suis un homme et que je m'identifie plutôt aux hommes et aux soldats, à ce moment-là, mon regard de chercheur sera plutôt orienté vers ces centres d'intérêt-là qui sont liés à mon identité de chercheur. Donc, on ne peut pas vraiment faire de la recherche de manière neutre, on est toujours engagé et notre identité est engagée dans notre recherche quand on est chercheur en sciences sociales et plus particulièrement historien. Mais la deuxième chose qui va être importante pour qu'une histoire des femmes devienne possible et qu'on sorte de l'invisibilisation, c'est qu'il va falloir utiliser une autre méthode ou développer d'autres méthodes pour pouvoir faire cette histoire. Et encore une fois, l'éducation ou l'absence d'éducation est mise en évidence ici comme un facteur déterminant de l'invisibilisation. Pendant longtemps, les femmes étaient exclues de l'éducation, ou en tout cas avaient une éducation qui était différente, et plus vous allez être exclu de l'éducation, moins vous allez savoir écrire, par exemple, et donc il ne va pas rester de vous grand-chose, puisque l'écrit est extrêmement important en histoire. Les historiens s'appuient énormément sur les documents écrits. Donc, moins vous avez accès à l'écriture, finalement, moins vous avez accès à l'écoute des historiens. C'est pour ça qu'il faut changer en quelque sorte de méthode, moins s'appuyer sur les écrits et aller, si possible, à la rencontre de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer par écrit et qu'il faut aller écouter. Il faut donc développer une nouvelle méthode qui s'appuie sur ce que Michel Perrot appelle l'histoire orale. Je lis le passage suivant qui est en gras. Il y a eu à ce moment-là tout un mouvement historiographique, pourrait-on dire, qui a voulu justement rompre le silence et donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et de ce point de vue-là, on a beaucoup développé l'histoire orale. Pourquoi ? Parce que ces femmes pauvres dont nous vous avons parlé n'écrivent pas la plupart du temps. Passage suivant. C'est assez différent maintenant, mais faire de l'histoire orale, c'est leur tendre un magnétophone et puis leur dire « racontez votre vie, racontez ce qui s'est passé ». Donc, pour résumer les idées essentielles qu'on peut tirer de ce texte, la première idée, c'est que l'histoire peut être source de violence par absence de reconnaissance de certains faits historiques qui concernent certaines catégories de la population qui intéressent moins et qui sont rendus invisibles par les discours historiques. Donc, l'histoire peut être violente, peut redoubler la violence vécue par une violence de déni. Deuxième idée, la subjectivité de l'historien joue sur la recherche et joue sur ce qui est mis en lumière dans les faits historiques. La subjectivité de l'historien guide sa recherche. Troisième idée qui est la conséquence de ce qui précède. Pour sortir de l'invisibilité, il faut que les invisibles deviennent chercheurs. Il faut qu'ils mènent l'enquête, et en l'occurrence, qu'elles mènent l'enquête. En tout cas, on peut faire le constat que c'est à partir du moment où les femmes ont accédé aux études, ont pu devenir historiennes, que l'histoire s'est diversifiée et qu'elle s'est intéressée à ce à quoi elle ne s'intéressait pas avant. Enfin, quatrième idée, on peut sortir du processus d'invisibilisation en adoptant de nouvelles méthodes et en allant de manière volontaire au contact des invisibles pour les éclairer en leur donnant la parole.